Bonjour, bonsoir, bienvenue dans les bulles nomades, le streetcast optimiste. Si vous écoutez cette bulle au moment de sa publication, j'espère que votre été se passe bien. J'ai en tout cas bienvenue par ici, j'espère que vous passez une excellente journée. Au moment où j'enregistre cet épisode, c'est la fin de journée, il fait encore bien chaud, mais j'ai un soleil un petit peu doré qui apporte une lumière toute douce dans la pièce. C'est vraiment super agréable les fins d'après-midi estivales, je trouve. Ça me fait penser à boire une boisson fraîche au calme après la plage, l'odeur du sel et du vent marin. Bon, je suis actuellement à Paris, il n'y a pas vraiment de plage, il n'y a pas vraiment de vent marin. Mais je trouve que ça fait partie de ces sortes de cartes postales de saison qui rappellent de bons souvenirs. C'est vraiment super agréable. Et j'espère que vous aussi, vous gardez ou avez gardé des bons souvenirs de votre été. Bref, le sujet que j'ai envie d'aborder avec vous aujourd'hui, c'est celui de l'échec. Donc échouer, rater, se viander, foirer, tout ça, tout ça. Alors dans l'épisode 44 des Bulles Nomades, je vous avais parlé du concept de diète d'achat que j'avais décidé de lancer pour le mois de mai et juin. Donc le concept, c'est ce que les anglophones appellent le shopping fast. Et c'est un outil que je trouve très intéressant pour comprendre ses habitudes de consommation, pour mener une vie plus simple. J'en ai fait plusieurs au cours de ces dernières années, des diètes d'achat. Et donc là, le concept, c'était que pendant 2 mois, donc en mai et juin 2018, je me suis engagée à ne rien acheter en dehors des nécessités du foyer, qui se limite généralement à de la nourriture, éventuellement un petit peu de produits ménagers, du savon pour le corps de temps en temps, de la bouffe pour chat, ce genre de truc. Donc tout ce qui est en dehors de ça, c'était l'objectif, c'était de ne pas acheter, en fait, reposer sur l'étagère et ne pas céder à la tentation. L'objectif étant de faire des économies. Donc dans mon cas, c'était pour le déménagement du mois de juillet 2018, mais aussi pour prendre conscience en fait de toutes les tentations, de toutes les envies d'acheter qui peuvent se déclencher, qui peuvent nous entourer, etc. et ne pas y céder. De voir un petit peu finalement ce que ça fait de rien s'acheter pendant 2 mois et de découvrir, de ramener à sa conscience en fait des comportements un peu automatiques d'achat qu'on peut avoir. Par exemple, je suis stressée donc je m'achète un tel truc ou je suis triste donc je vais sur tel magasin en ligne. Et qu'en fait si on prend pas le temps d'examiner ces trucs là, on peut le faire sans s'en rendre compte en fait. Donc l'idée c'est vraiment de prendre conscience de ces choses là. Alors évidemment, je pense que nos grands-parents rigoleraient bien de nous voir se forcer à ne pas acheter, hein. C'est quand même un sacré symptôme de la société de consumériste d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut se retenir d'acheter plein de choses tout le temps. Mais bon, en tout cas, le sujet du jour, donc j'enregistre cet épisode au mois d'août 2018, donc un peu plus d'un mois après la fin de cette diète d'achat, et j'ai échoué lamentablement. Voilà. Donc si je regarde mon journal dans l'application Day One, qui est dédiée à mes achats matériels superflus. Donc c'est Day One, c'est une application de journaling dont je vous ai parlé l'an dernier, dans un épisode qui s'appelle Journal, je crois. Et un de mes journaux, c'est justement de prendre en photo quand je fais des achats comme ça que je considère comme superflus. Je les prends en photo, je note la date, le prix, ce que c'est et pourquoi je les ai achetés. Pour justement garder cette espèce de conscience des achats, même en dehors des diètes. Et donc là, je suis allée voir ce journal d'achat de Day One, et j'ai remarqué que j'ai fait 7 passages en caisse entre mai et juin, pendant cette soi-disant diète d'achat. Et donc je dis bien 7 passages en caisse, ça veut pas dire 7 achats, parce que bien souvent, avec un passage en caisse, j'ai acheté plusieurs choses. Alors, c'est pas forcément intéressant que je vous cite tout ce que j'ai acheté. De manière générale, c'est des trucs assez classiques de citadin. J'ai acheté des vêtements, des bijoux, des bougies, des accessoires de voyage, des choses comme ça. Des carnets, évidemment, des stylos. Enfin bref, ce qui est intéressant, c'est de constater que je m'étais fixée comme objectif de ne rien acheter du tout pendant 2 mois. Donc 2 mois, c'est pas très long, c'est 60 jours, c'est pas non plus insurmontable. Et malgré tout, je n'y suis pas parvenue, alors que je pratique la simplicité depuis 10 ans. Et que ça doit être au moins la 4e ou 5e diète d'achat que je fais. Donc déjà, le premier apprentissage de ça, c'est qu'on peut échouer où qu'on en soit sur le chemin. C'est-à-dire que vous débutiez dans la simplicité, que vous le fassiez depuis des années, voire depuis des décennies, il peut toujours y avoir des rechutes, il peut toujours y avoir des échecs, on peut toujours se casser la figure sur le chemin. Et finalement, c'est pas très grave. C'est juste qu'avoir conscience que le but, c'est pas d'arriver à un point où la simplicité ou le minimalisme vont être absolument parfaits, qu'on n'aura plus jamais de tentation, etc. Déjà parce que si c'est ça votre objectif, ben c'est pas possible. Et puis ensuite, c'est humain d'échouer et c'est comme ça qu'on apprend des choses. Donc, c'est justement cette philosophie de l'échec que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. C'est que la manière dont je vois les choses, c'est que l'échec, c'est un moyen d'apprendre. C'est-à-dire que là, je me suis, en faisant le bilan de cette diète d'achat qui a été un échec, je me suis demandé pourquoi j'ai échoué, quels paramètres sont en cause, et comment est-ce que je peux les modifier pour réussir la prochaine fois. C'est finalement le principe de la méthode scientifique. C'est-à-dire qu'on teste avec un certain nombre de paramètres. Ça marche pas. On essaye de comprendre pourquoi ça n'a pas marché. On identifie des paramètres qu'il faut changer. On recommence en ayant changé certains paramètres. Et ça marche un peu mieux. Et on en tire des conclusions. Et on réétudie l'échec qu'il y a eu par la suite. On rechange des paramètres, etc., etc. Et c'est par la répétition de ça qu'on finit par comprendre vraiment pourquoi, qu'on apprend et qu'on s'améliore. Finalement, se tromper, c'est pas une chose affreuse à éviter à tout prix, comme l'école française peut nous amener à penser. Se tromper, c'est un outil d'apprentissage. Comment est-ce qu'on fait ce qu'on sait pas faire ? On fait ce qu'on sait pas faire en le faisant, et en se plantant, et en comprenant pourquoi on s'est planté. Et on apprend un truc en comprenant pourquoi on a fait cet échec-là en particulier, et puis on recommence avec de nouveaux paramètres qu'on change grâce à l'apprentissage de l'échec en question. Et on fait à nouveau, et on se replante, et on réévalue, et on réajuste. Et au fur et à mesure qu'on fait et qu'on refait, ben on y arrive de mieux en mieux. C'est comme ça qu'on acquiert de l'expertise, en fait. C'est cette répétition d'essais et d'échecs qui forge l'expérience et qui fait qu'au bout d'un moment, on finit par savoir faire. On peut aussi récupérer des informations intéressantes en tirant les leçons des échecs des autres. Heureusement qu'on ne s'habitue pas à regoûter toutes les plantes vénéneuses à chaque fois. S'il y a Michel qui est mort il y a 5000 ans en essayant de bouffer le truc, on a compris que c'était empoisonné, c'est pas la peine d'insister. Et c'est pour ça que je lis, que je regarde et que j'écoute beaucoup de choses au sujet de la simplicité et du minimalisme depuis que je m'y intéresse, et d'ailleurs au sujet de tous les sujets qui m'intéressent, parce qu'en fait, en écoutant l'expérience des autres, je peux me faire une idée des pièges à éviter. Je suis pas obligée de refaire tout à zéro comme cette personne-là qui partage son expérience. Mais, cela étant, je trouve que dans ce genre de sujet, concrètement, contrairement au fait de goûter les plantes empoisonnées, rien ne vaut l'expérience directe. Parce que finalement, on est tous différents, les raisons de nos comportements de consommation varient en fonction de notre personnalité, en fonction de notre style de vie, en fonction de ce qui nous prend la tête en ce moment, en fonction du type d'émotion qu'on peut être amené à fuir par du shopping, etc., etc. Donc ma théorie là-dessus, c'est que c'est typiquement le genre de choses où il faut faire, échouer, apprendre à se connaître soi-même et en tirer ses propres leçons. Le problème, c'est que l'échec peut être paralysant, c'est-à-dire qu'on a peur de se tromper. Donc on ne fait que ce qu'on sait déjà faire, ce pourquoi on connaît déjà le chemin, ce pourquoi on connaît déjà la recette, qu'on a déjà réussi, ou finalement on est dans une zone de confort et de sécurité. On va rester sur ce qui est le plus accepté, encouragé par notre entourage, par la société, etc. etc. Le problème de ça, c'est qu'en ne quittant jamais cette espèce de chemin sécurisé, en n'essayant jamais, on ne peut jamais vraiment devenir bon dans ce qu'on a envie de faire. Ne serait-ce qu'on finit par ne pas faire ce qu'on a envie de faire, finalement. On ne quitte pas les sentiers battus et on risque de passer à côté de son propre chemin de vie en suivant celui des autres, et qu'on risque de passer à côté de sa propre vie, en réalité. Et du coup, ce que j'ai envie de proposer dans l'épisode d'aujourd'hui, dans la bulle d'aujourd'hui, c'est de changer de stratégie. Et si on osait aller vers l'inconnu, même sans savoir comment on va faire, en fait, d'oser faire les choses, même avant de savoir comment on va faire. De vraiment apprendre sur le tas, d'apprendre en faisant, de se donner le droit à l'erreur, et quelque part de se donner le cadeau d'apprendre grâce à ses erreurs, pour finalement, par ses erreurs, ses ajustements, etc., trouver son propre chemin. Quelque part, reconnaître ses échecs, c'est aussi s'avouer humblement qu'on s'est trompé, et oser la remise en question. Et finalement, savoir manger son ego pour tirer les leçons, vous voyez ce que je veux dire? C'est que ça peut paraître un petit peu difficile d'admettre qu'on a échoué. Et pour illustrer ce dernier point, je vais vous donner un autre exemple d'échec récent dans le domaine de la consommation. Donc c'était après ma diète d'achat et après mon déménagement, qui a été très difficile sur plein de sujets. Si vous avez déménagé, vous imaginez très bien la situation. Et une fois qu'on a été installé, etc., et qu'on a acheté les obligations qu'on avait à acheter, je me suis mis un petit budget de côté. Et j'ai voulu me faire plaisir en m'achetant 2-3 petits trucs un petit peu sympas. En plus, c'était encore les soldes et tout ça. Et je me suis notamment acheté une jolie petite bague en laiton recyclé dans un magasin qui revend en fait des marques et des créateurs artisanaux. Donc certains créateurs sont locaux, d'autres viennent de loin, mais du coup, il y a une démarche éthique en fait pour faire travailler les artisans ici et là. Et du coup, dans ce cas particulier, c'était une marque qui utilise des matières recyclées et qui travaille avec des artisans de manière éthique au Burkina Faso. Donc c'est le genre de choses qui correspond à mes valeurs, qui correspond au genre de produits pour lesquels j'ai envie de dépenser mon argent. Et comme je voulais me faire plaisir avec un petit achat matériel, j'ai acheté cette bague alors qu'elle était un petit peu chère pour du laiton. Mais je me suis dit que j'avais envie de donner mon argent pour soutenir ce genre de valeur, donc je me la suis offerte. Et la commerçante m'a donné la carte de visite de la marque quand je suis repartie. Et du coup, en rentrant à la maison, je suis allée voir leur site internet. Parce que je me suis dit, bah, je vais voir ce qu'ils font d'autre, en fait. Ça peut aussi être une bonne occasion d'avoir un endroit où venir faire des cadeaux, par exemple, etc. Donc je vais voir leur site internet, ils ont une boutique en ligne, et là, c'est le drame. La bague était presque 3 fois moins chère en achat direct sur le site de la marque. En gros, la commerçante s'est fait une marge de 200% sur la bague en laiton, quoi. Alors pour l'éthique, on repassera, parce qu'en gros, ce que ça veut dire, c'est que mes sous sont allés aux 2/3 dans les poches de la commerçante au lieu de l'artisan africain. Donc dans les poches de l'intermédiaire plutôt que du créateur d'origine. Et en plus de ça, je me suis fait avoir en beauté, parce que ça veut dire que j'ai payé 3 fois trop cher une bague, en fait, par rapport à ce qu'elle est vendue directement par le producteur. Et en fait, c'est exactement le genre de situation qu'on retrouve fréquemment à Paris, et puis je pense dans d'autres villes qui sont fréquentées par des gens qui ont un petit peu de moyens et qui ont envie de vivre avec une certaine éthique. C'est-à-dire que on a à cœur de mieux consommer, on a un petit peu d'argent à dépenser. Et donc du coup, bah, les commerçants se disent on va viser ces gens-là en gonflant les prix, et ces acheteurs-là vont se dire que c'est pour une bonne cause qu'ils donnent l'argent, alors qu'en fait, ils ont gonflé les prix artificiellement, vous voyez. Et en fait, cette expérience m'a permis de reconnaître humblement que je me suis fait berner à travers ma volonté de consommer éthique et responsable. C'est-à-dire que, personnellement, je pensais être un petit peu au-dessus des techniques de marketing depuis le temps que je m'intéresse au minimalisme. Je sais comment les marques, par exemple les grandes marques un petit peu connues, gonflent leurs prix alors que les t-shirts sont fabriqués en Chine pareil et que finalement c'est pas cher pareil et que en gros on paye plus cher juste parce que c'est le prix de la marque et que c'est une arnaque, etc. etc. Et ben malgré toute cette lucidité que je pensais avoir à ce sujet-là, je me suis vraiment laissée avoir comme une bleue dans un domaine dont je suis finalement le cœur de cible, c'est-à-dire le domaine des artisans, des créateurs, des artistes, des petites boutiques, des petites marques où on soutient les locaux, etc. etc. Donc j'ai pris conscience de cet échec-là, et maintenant, quand je vais aller voir ce genre de boutique qui revend des créateurs, avant d'acheter quoi que ce soit, je vais aller voir sur internet, me renseigner sur la marque et voir si le prix du revendeur correspond au prix du créateur, voyez, ça m'a bien servi de leçon. Et de manière générale, l'échec de la diète d'achat, donc de mai-juin 2018 pour moi, a été un humble rappel quelque part que je me suis peut-être un petit peu trop laissé aller dans mes dépenses ces derniers mois, parce que j'ai un petit peu pris comme acquise mes habitudes minimalistes, et que je me suis un peu dit « Ah oui, c'est bon, maintenant je suis une experte en simplicité, je peux être tranquille et me faire confiance », alors qu'en réalité, de toute façon, le marketing joue sur la manière dont fonctionne le cerveau humain, joue sur les automatismes, joue sur le besoin de se distraire d'émotions négatives, et que quelque part, on n'est jamais à l'abri de ce genre de choses. Donc je terminerai cette bulle en disant que l'étape qui suit l'échec, et la leçon qu'on en tire, c'est évidemment l'action. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'erreur ne se reproduise pas. Donc comme je disais, en ce qui concerne les magasins revendeurs qui sont soi-disant éthiques, maintenant je vais aller sur internet me renseigner sur les marques avant d'acheter quoi que ce soit. Pour la diète d'achat, j'ai décidé d'en recommencer une qui a commencé le 1er août 2018 et qui se courra en août et septembre 2018, et où j'ai ajouté toute une liste d'explications possibles pour mon échec de mai-juin et mes différents achats du mois de mai et du mois de juin, de manière à ce que je fasse attention à ça. Donc je modifie certains paramètres pour voir si ma diète d'achat se passe mieux. Par exemple, la prochaine fois que j'ai rendez-vous avec ma psy, je vais emmener son chèque, mon pass Navigo et rien d'autre. Parce que j'ai remarqué que j'avais tendance à fuir ou à me distraire des émotions qui sont remuées généralement lors d'une séance de psy en allant acheter des trucs à la sortie du cabinet de psy. C'est quelque chose qui est arrivé plusieurs fois en mai-juin. Donc ça c'est juste un exemple de cause que j'ai trouvé pour certains des achats et où du coup j'implémente une solution de manière à ce que ça se reproduise plus à l'avenir. Donc ça c'est qu'un exemple, mais si j'avais une suggestion à vous faire, ce serait de prendre le temps de vous poser la prochaine fois que vous commettez un échec, en fait. Quel que soit le domaine dans lequel vous échouez, que ce soit dans le domaine d'une volonté de mener une vie plus simple, de minimalisme, ou un domaine qui n'a rien à voir, hein, dans votre travail, dans vos relations, peu importe. Vous vous posez, et je vous invite à prendre une attitude scientifique par rapport à ça. Si vous étiez un chercheur qui analyse les résultats d'une expérience, comment est-ce que vous regarderiez votre échec ? Donc en vous posant des questions là-dessus, qu'est-ce qui s'est passé ? Quels paramètres peuvent être la cause de votre échec ? Et en fait, je vous invite vraiment à vous faire le cadeau de saisir cette opportunité d'apprendre et de grandir, puis ensuite d'agir de manière à ce que cet échec-là, en particulier pour ces raisons-là, ne se reproduise pas. Et que du coup, vous en ayez tiré une leçon et que vous ayez un petit peu grandi, un petit peu avancé et quelque part un petit peu augmenté votre expertise ou votre expérience dans ce domaine-là. Je vais vous laisser là-dessus. Si vous avez des questions, des réactions ou des suggestions, je suis toujours dispo sur les réseaux sociaux @floriteller, F-L-O-R-I-E-T-E-2-L-E-R. Je suis aussi sur le blog La Nif en l'air ou sur le Discord des Studcasters où je suis Florie. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse journée, une excellente soirée et à la prochaine !